on va lire dans Hébreu, qui est un épître, on ne sait pas qui l'a écrit d'ailleurs, on suppose que c'est Paul, mais ce n'est pas évident, ça pourrait être Pierre, ou quelqu'un qui écrit à la place de Pierre. Hein, mais peu importe, c'est une épître capitale pour comprendre le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'ombre des choses et la réalité des choses du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Dans Hébreux, chapitre 6, je lirai à partir du verset 20, et je continuerai dans le chapitre 7. Là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait à la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout, et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il est rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna sa dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici, ce sont les hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi, qui reçoit la dîme, là, pour ainsi dire, payé par Abraham, etc. Je ne vais pas m'arrêter là, mais il faudra lire tout le chapitre 7 pour que vous puissiez saisir la dimension du message d'aujourd'hui. On va parler du ministère sacerdotal. En gros, il y a trois grands ministères. Ministère, vous savez que ça veut dire service, ministère. Trois grands ministères d'autorité, qui est le ministère d'autorité, qui est le ministère du sacerdoce, du sacerdotal. Hein, sacerdoce, ça vient de sacer, qui veut dire sacré, hein, qui est la fonction qui relie l'homme à Dieu. Sacerdotal, le ministère d'autorité sociale, hein, alors social pas au sens de sécurité sociale, mais de société, de faire corps ensemble, frères et sœurs, hein, dans ce sens-là, et le ministère d'autorité qui est politique au sens de bien commun, voilà, qui lui est qui est royal, donc la royauté, hein, qui est, lui, le prophétique. Hein, prophétique, pourquoi ? Parce que dans une église où il y a des frères et des sœurs, eh bien, on est supposé rester frères et sœurs dans l'éternité. Est-ce que vous pensez vous exclure de quelqu'un que vous n'aimez pas trop dans le ciel ? Non ? Hello ? Non, pas trop. Des fois, on aimerait bien, hein, mais il faudra qu'on vive ensemble. Autant le faire ici-bas, le mieux possible. Okay, on facilite notre vie, on facilite la vie des autres, on facilite la vie de l'Église. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont plus dans les églises parce qu'ils disent « l'Église m'a blessé ». Ok, d'accord. Il faut savoir que le jour où vous venez dans l'Église, vous amenez l'imperfection, la vôtre, avec vous. Donc l'Église est imparfaite dès que vous rentrez dans l'Église. Donc ne cherchez pas l'imperfection chez les autres, elle est chez vous aussi. Donc dans le temps présent, il y a une tension entre le présent, hein, le déjà, pas encore. Nous sommes déjà frères et sœurs en Christ, mais nous ne sommes pas encore parfaits à l'exemple de Christ, ce que nous serons par la suite. Donc le social est prophétique, le politique c'est la royauté, c'est le règne, hein, régner. Or ces trois offices s'appellent aussi des offices, en théologie on appelle ça des offices, en français, dans l'Ancien Régime, office était monnaie courante. Aujourd'hui, on ne sait plus. Par contre, on a encore des résultats, hein, des restes, des offices. L'office notaire, des notariales, l'office des pharmaciens, l'office... Enfin, voilà, c'est une charge. Hein, c'est une charge qui est confiée par un roi. À l'époque, c'est le roi qui donnait les charges. Hein. Donc, c'est une dignité de régalienne, une dignité du roi, hein, qui donnait des charges pour pouvoir exercer à sa place, parce que le roi tout seul ne peut pas exercer un royaume, surtout quand il y a 67 millions d'habitants comme la France, parlons pas des 300 ou des milliards en Chine. Donc, vous voyez bien, il y a une organisation, une structure d'organisation qui est liée à la politique, à la royauté. Jésus, il est roi. Amen. Jésus, il est prophète. Jésus, il est sacrificateur. Mais selon un ordre particulier, c'est l'ordre de Melchisédek. Alors tout de suite, je ne veux pas rentrer dans les détails de qui est Melchisédek. On ne le sait pas, donc ne cherchez pas vous-même. Même si sur Internet, on vous dit qui il est, c'est faux, c'est une fake news. Ils disent que c'est Jésus, il y en a qui disent que c'est Jésus. Non, il est dit que Melchisédek est comme Jésus. Comme, le petit mot comme, change les choses. Donc c'est pas Jésus, c'est pas une apparition de Jésus et qui est venu au moment d'Abraham. Mais il y a une très grande similitude. C'est un ordre. On sait qu'il est venu, c'est quand même une personne réelle qui est apparue à Abraham. C'est pas un ange. Mais on dit qu'il a pas de généalogie. Généalogie, etc. Donc voilà, c'est un mystère. Donc restez dans le mystère. Moi, je me satisfais avec des mystères parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et qui ne sont pas nécessaires de comprendre. Donc l'office de souverain sacrificateur. Donc le sacerdoce, il nécessite d'une part des sacrificateurs, hein, des sacrificateurs, et celui qui est la tête, qui est le souverain, c'est aujourd'hui, c'est Christ. Donc c'est une réalité, c'est un office réel. C'est pas un office virtuel, c'est pas un office, c'est pas parce qu'il est spirituel qu'il n'est pas réel. Okay. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Or Jésus, il parlait d'une réalité spirituelle. Donc il règne aujourd'hui dans cet office, comme il règne d'ailleurs sur les trois autres offices, mais on verra ça les dimanches suivants. Aujourd'hui, c'est l'office sacerdotal dont on parle. Il y a deux choses quand on parle de sacrificateur. Sacrificateur vient du mot sacrifice. Okay, vous connaissez tous l'Ancien Testament où on apportait des sacrifices. Okay. Vous connaissez aujourd'hui le Nouveau Testament, c'est quoi le sacrifice aujourd'hui qu'on apporte? Vous êtes venu comment ce matin? Avec quel type de sacrifice? Parce qu'on ne vient pas dans un culte sans sacrifice. Pardon? Ouais, sacrifice de louange. Je pense que vous avez aussi sacrifié votre réveil, vous auriez pu rester à dormir, voilà. Vous avez sacrifié votre corps, hein, vous avez dû amener votre corps ici, hein. Vous avez dû lui dire, attends, peut-être un peu mal à la tête, j'ai peut-être ceci, cela, voilà, vous connaissez tout ça, peut-être pas aujourd'hui, mais les autres fois. C'est un sacrifice, hein, sacrifice de vous amener, d'amener votre enveloppe corporelle, et parfois il faut des petits coups de pied au derrière pour le faire, voilà. Des fois ça va tout seul, des fois on est dans, voilà, mais il faut l'amener. Donc on est dans une dimension de sacrifice. Et tout culte nécessite un sacrifice. Mais là, on va parler du sacrifice de Jésus, qui est tout à fait plus important. Mais tout de suite, j'aimerais dire qu'il y a deux choses, et ça, on ne le souligne pas assez. Dans la question du sacrificateur, il y a le sacrifice et l'intercession. La prière, l'intercession, intercéder. Ces deux choses fondamentales, et cette deuxième chose, souvent on l'occulte ou on le met à d'autres endroits, mais la fonction de l'intercession est aussi importante que la fonction du sacrifice. Si on prend Jésus, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu sa mort, hein, la mort à la croix. Celle-là, bien sûr, est importante dans la question du sacrifice qu'il a porté, mais il y a aussi ses prières. Il a prié tout au long, d'une part avant son sacrifice, et particulièrement Gethsémané, et il a prié après. Quand on voit, quand il revient, après la résurrection, il revient du ciel voir ses disciples, eh bien, il prie pour eux. Il prie pour Pierre, il prie, voilà, il prend soin. Et il dit qu'il va prier de manière éternelle pour chacun de nous. C'est la dimension de la prière. Alors là, on le trouve dans Hébreux 7, 25. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Dans Romains aussi 8, cette notion d'intercession de Jésus en tant que souverain sacrificateur est mentionnée et absolument capitale dans ce ministère sacerdotal. Romains 8, versets 26 et 27. Je lis. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors là, vous voyez qu'il est parlé de l'Esprit, mais l'Esprit et Jésus sont indissociables. Comme on le dit, la Trinité, on distingue les personnes, mais on ne les sépare pas. Et Jésus envoie l'Esprit, donc voilà, mais ça c'est tout un enseignement théologique sur cette question. Et dans Romains 8, verset 34, il est dit « Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » C'est une réalité qu'il faut que vous compreniez ce matin. Que Jésus intercède pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous, en continu dans le ciel. Dis-le à ton voisin, Jésus intercède pour toi. Dis-le à ton voisin. C'est une vérité, et la vérité libère. C'est une réalité, et la réalité, c'est celle qui exerce son pouvoir sur les choses de ce monde. Cette réalité fait que, par l'intercession de Jésus, autant que par sa mort sacrificielle, eh bien, nous sommes justifiés et nous sommes acceptés, nous sommes enfants de Dieu, comme nous l'avons chanté ce matin. Sinon, nous ne pouvons pas être enfants de Dieu, ou ça ne durera pas longtemps, je vais m'expliquer dans quelques secondes. Si la mort de Jésus n'avait pas eu lieu, son intercession n'existerait pas non plus. C'est grâce au passage de la mort et de la résurrection que Jésus peut intercéder. Sinon, aujourd'hui, on n'aurait pas d'intercesseur. Les choses sont dépendantes les uns des autres, sacrifice et intercession. En effet, on peut même parler de l'intercession céleste, spirituelle de Christ, comme d'un genre de sacrifice. C'est un peu comme si Jésus faisait un sacrifice permanent de cette intercession. Il ne regarde pas la télé, il intercède. Enfin, je fais une boutade là. Je ne suis pas contre la télé. Mais c'est pour montrer à quel point Jésus, il intercède pour tous les milliards d'hommes qui sont aujourd'hui. Alors j'anticipe un peu sur ma conclusion pour dire que est-ce que vous avez réalisé quelle est l'importance de l'intercession dans l'Église? Moi, je pense que non. Et tous les pasteurs de toutes les époques que j'ai connues, quand on lit les biographies, ils disent tous, on regarde la vitalité d'une Église à la réunion de prière. Alors, la réunion de prière, je peux vous dire, on se compte. C'est pas pour vous mettre la pression, c'est pour vous parler d'une réalité. C'est tout. La réalité se montre aux actes qu'on pose. Hello ? Intercéder. Et il y a une autre réalité qui n'est pas dans la Bible, mais qui peut-être est dans la Bible, mais il faut la chercher, qui est que quelqu'un vient au Seigneur parce que quelqu'un a intercédé pour lui. Moi, je suis venu au Seigneur, je suis sûr que quelqu'un a intercédé pour moi. Ça peut être dans la famille, ça peut être, etc. Mais c'est quelque chose qui est absolument fondamental à comprendre. Et si nous ne comprenons pas que nous sommes sauvés pour servir, servir de quoi? Servir à chauffer les chaises? Pardon? Ouais, ça c'est la congrégation. L'association, c'est je m'engage pour servir les autres dans l'intercession, qui est la première des premiers des services sacerdotales, qui est un service qui est transcendant, qui concerne le salut des âmes. Est-ce que vous croyez que les gens ont besoin d'être sauvés? Ah oui, vous êtes convaincus. Bon, est-ce que vous croyez qu'ils ont besoin d'intercession? Oui. Alors, bon entendeur, salut. Donc si cette église veut vivre et grandir, grandir non pas en croissance numérique, c'est pas le problème, mais en qualité de chrétien, il faut intercéder. Parce que ça fait partie de notre ministère sacerdotal. Parce que si Jésus est le souverain sacrificateur, nous sommes quoi? Nous sommes quoi, nous? Des sacrificateurs royaux, du roi. Pierre le dira, hein, Pierre de 15, je crois, qui dira, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes des sacerdotaux, des sacrificateurs. Mais est-ce que ce ministère, est-ce qu'on le remplit ou on ne le remplit pas? That is the question. Je vous laisse avec la question. L'intercession de Christ est un genre de sacrifice continu de Jésus dans le ciel, pour laquelle il revendique les mérites de son sacrifice auprès du Père. Alors comment ça se passe, cette intercession? Il se passe une chose, c'est que Christ est mort une fois à la croix. Il a accompli par son acte le salut des hommes, il a porté le péché, et quand il était à la croix, tous les péchés, y compris les miens, c'est lui qui les a portés. Et quand il est mort, ce péché a été jugé, il était jugé à la croix. Donc le jugement était fait. Et moi, je suis mort avec lui à la croix. Ça, c'est d'une vérité que Paul va décrire dans sa théologie du salut. Je suis mort à la croix à ce moment-là. Donc il y a une identification du péché à la croix. Et c'est pour ça que quand on vient à la croix, je ne sais pas comment vous êtes venu à Jésus. Moi, j'ai pleuré sur mes péchés, mais c'est incroyable, quoi. C'est la conscience qu'on a péché soi-même et les pleurs qui en découlent montrent qu'on a une profonde réalité de ce qu'on a blessé Dieu au travers de nos péchés. Et là, c'est une fois pour toutes. Mais Jésus continue à intercéder. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit à son Père, qui lui est le juge et qui ne peut pas tolérer de péché dans son ciel, dans son règne, d'ailleurs le ciel sera aussi sur la terre, parce que tout appartient à Dieu. Moi, j'ai pas envie, et c'est normal, d'être dans un royaume où il y a des pécheurs. Vous voulez y être? Avec des gens qui vous tyrannisent? Avec des gens qui vous détruisent? Qui voilà, ce qu'on connaît aujourd'hui sur la planète, bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi des gens bien, mais quand même, c'est pas ça qu'on veut tendre. On veut tendre vers quelque chose qui est noble, qui est saint et que Dieu a créé au départ et qui a été pollué par le péché. Ben, si on veut ça, il faut que Jésus, en permanence, puisse, par les mérites de sa vie, par les mérites de ce qu'il a accompli, il peut demander à son Père de sauver un tel, Amandine, Sarah, André, machin, etc., de manière continue, pour que les difficultés qu'on a dans la vie chrétienne, parce qu'on n'est pas sauvé une fois, sauvé pour toujours, c'est qu'il intercède pour nous. Parce qu'on peut chuter, on peut tomber, on peut, voilà. Judas, il était dans les disciples, mais il a chuté. Saül, voilà, il a chuté. Donc, il y a une intercession continue qu'on a besoin de la part de Jésus. Et lui, par les mérites de ce qu'il a fait à la croix, eh bien son Père l'écoute. Et il dit, mais tiens, tu sauves Paola, tu la soutiens, tu l'aides, etc. Et elle reçoit de l'aide, voyez, tu soutiens Vanguy, etc. Voyez, il prie pour nous, il intercède pour nous. Il y a une activité spirituelle, J'aimerais que vous compreniez ça, que vous visualisiez cette réalité. Et l'ennemi fait tout pour que cette réalité, on ne la voit pas. Et là, il a gagné. Quand il a une église passive au niveau de l'intercession, il peut faire tout ce qu'il veut. Nous, on s'en est aperçu avec Michel, dans 98. Alors, à l'époque, il y avait des gens malveillants. Hein, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est peut-être des gens insouciants, mais pas malveillants. Des gens malveillants qui faisaient tout pour arrêter les réunions de prière. On avait des réunions de prière incroyables, des jeûnes et prières. On avait des rencontres le dimanche après-midi, voilà, etc. Il y avait une vie de prière absolument fantastique. Et en fait, ces gens-là, parce que c'est clair, on a vu qui c'était, ils ont tout fait pour arrêter ces réunions de prière, casser. Et le jour où c'était vraiment cassé, et bien l'ennemi a, paf, il a cassé. Tac, division. Division atomique, hein, en plusieurs morceaux. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que la vision paradigme qu'on a, Michel et moi, c'est qu'on sait que si l'intercession n'est pas dans l'Église, hein, il ne faut pas trop rêver. Ça n'ira pas très loin. Ce sera humain, on pourra faire des efforts. Mais ce n'est pas ça une Église. Alors, je reviendrai là-dessus en septembre sur l'Église. Deuxième chose qui est importante, donc, offrande, sacrifice ou offrande et intercession sont liés. La deuxième chose que je voudrais insister ce matin par rapport au texte qu'on a lu, c'est que Jésus est médiateur. Alors, tous les médiateurs ne sont pas sacrificateurs. Il y a des médiateurs, une fois on avait des gros problèmes avec le voisin, la mairie a demandé un médiateur, voilà, parce que comme il aimait bien le tir aux pigeons, il y avait des pigeons là et qui a tiré dans la croix, il nous a pété la vitre avec son fusil, etc. Bon, voilà, il était un peu dangereux. Et puis il nous accusait de mirage. Ben bon, il y a médiateur, parce que ces gens-là, en plus, ils appellent la mairie, ouais, ceci, cela, enfin, bref, médiateur. Mais ils ne sont pas sacrificateurs. Okay. Par contre, tous les sacrificateurs sont médiateurs. Vous voyez, l'inverse, tous les sacrificateurs sont médiateur. Alors je parle de sacrificateur au pluriel, pourquoi ? Parce qu'il y a Jésus qui est sacrificateur, et nous sommes sacrificateurs. Mais les gens dans le monde païen, qui sont en relation avec des divinités spirituelles, ils ont des sacrificateurs. Ils portent des sacrifices. À une époque, c'est ça que j'ai compris dans le combat spirituel, pour trouver le lieu ici, au mètre près, hein, ces endroits-là, il y a des gens qui faisaient des sacrifices. Ça s'appelait, chez les Romains, les augures. Ils consultaient les augures. Voilà. On ne construisait jamais, et aujourd'hui, j'en ai parlé avec Mamadou Karambéry, que mon frère connaît bien, il a dit, mais vous, en Occident, vous ne savez pas tout ça, mais il a rigolé, il a dit, mais nous, on connaît tout ça. On consulte les augures, on consulte les marabouts, on consulte les machins, et si on est sur un axe qui n'est pas protégé, les gens là-bas, ils n'y vont pas. Parce qu'ils savent que leur vie est en danger. Nous, on est sur des axes spirituels et voilà, on rêve. Non. On est de la même manière sur des axes spirituels qu'en Afrique, qu'en Brésil, n'importe où. Parce qu'il y a des sacrifices d'adoration. Et quand on a eu le résultat, la révélation de ce qui se passait ici, le prophète, il a dit, c'est un lieu où des sacrifices ont été faits depuis l'Antiquité, quoi, depuis Mathusalem, enfin, l'origine, et des sacrifices humains qui se faisaient ici, et dans le sous-sol, et donc on a dû purifier ça, on a fait un combat spirituel pour purifier. Après, on a eu la paix. Mais il y a des droits qu'il faut enlever à l'ennemi pour trouver des endroits de paix. Faites-le chez vous, dans votre maison, qu'il y ait des endroits de paix. Parce qu'il y a des endroits qui sont chargés par vos prédécesseurs et qui sont des sacrificateurs, mais pas au vrai Dieu. Mais l'ennemi utilise le sacrifice pour obtenir des droits, et en particulier le sacrifice de sang, qu'on appelle le satanisme, qui va beaucoup plus loin que les religions païennes. Troisièmement, donc médiateur, troisièmement Jésus médiateur, donc il fait la médiation entre nous et Dieu, Dieu son Père. Troisièmement, Jésus a payé la dette par son sang. Il s'est offert pour les autres. Il n'est pas venu pour lui. Il était dans son ciel de gloire, il aurait pu y rester. Il est descendu pour toi, pour moi, pour tous les humains. Hébreux 9, 26 le dit, 1 Pierre 2, 24 aussi. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et offrait les sacrifices, pourquoi ? Pour lui-même aussi, mais pour le péché du peuple. Il y avait tout un tas de sacrifices individuels qui se faisaient, les gens venaient pour leur péché, mais une fois par an, c'est le souverain sacrificateur qui entrait pour le péché de tout le peuple. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, Jésus est entré une fois pour toutes, il n'a pas besoin d'y entrer tous les ans, et une fois pour toutes, il a offert son sang pour le péché de tout le peuple, de toutes les tribus, de toutes les nations, de tous ceux qui vivent dans l'intemporalité avant, après et futur. Quatrième point, c'est l'obéissance. Jésus a appris l'obéissance par les souffrances. Alors là, on n'aime pas non plus. Vous voyez, en ce moment, c'est pas très, très bon ce message pour haute aisance ce matin. Je parle d'intercession, de prière, et je parle d'obéissance. Et oui, Jésus, même lui, qui était fils de l'homme, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. On apprend plus, moi j'ai appris beaucoup plus dans la souffrance. Attention, moi je ne suis pas quelqu'un de souffrir. Non, je suis comme vous. Hein. Mais j'ai tout appris pratiquement dans les moments de souffrance. Ce que le Seigneur. Alors ne le rejetez pas systématiquement, demandez si c'est ta volonté. Paul l'a dit. Hein. Il dit, Seigneur, si c'est possible, enlève-moi cette écharde. Le problème, c'est que la réponse est venue et Jésus lui a dit, ma grâce te suffit. Donc l'écharpe, tu la gardes. Parce qu'il y avait une raison. Et heureusement pour lui, il n'est pas tombé dans le syndrome de Saül. Il est resté dans la position de David, de l'humilité. Très souvent, et l'être humain est construit comme ça, il veut s'en sortir tout seul. Et l'orgueil. Et les difficultés, les problèmes nous aident à dire, ah mais tiens, je ne suis peut-être pas tout puissant. Hein. Je ne suis peut-être pas Jupiter là, que je croyais être, parce qu'il y a des gilets jaunes qui m'embêtent. Voilà, mais bon, toute référence n'est pas politique. Et oui, parfois on retombe de son perchoir en croyant maîtriser les choses. L'obéissance. Jésus, même dans cette obéissance à Gethsémané, toute sa vie entière était une vie d'humilité où il a vécu sous la loi de Dieu. Il a respecté la loi. Il a mis l'esprit de la loi et pas la rigidité de la loi. Parce qu'il savait que son père avait inspiré la loi, par exemple du sabbat, pas tellement pour la respecter, voilà, même si quelqu'un est malade, mais si quelqu'un est malade, il guérissait le sabbat. Mais ça lui était reproché. Vous voyez. Les gens qui sont sur la loi, légalistes, comme si la loi les sauvait, ils sont légalistes. Non, il faut être dans l'esprit de la loi. Il faut la transgresser, entre guillemets, comme Jésus l'a fait, pour une raison supérieure. Et ça, c'est le discernement. Cinquièmement, la sanctification. Alors, dans l'intercession, Jésus est apparu dans le lieu très saint et il a plaidé la cause de son peuple devant le Père sur la base des mérites de sa vie, des mérites de son œuvre, de sa mort et de sa résurrection. Autrement dit, son intercession inclut la résurrection, l'ascension et son intronisation en tant que roi, souverain sur toute chose, à la droite du Père, puisque toutes ses œuvres sont liées par un tout organique. C'est un tout. Par exemple, un théologien dira, mieux que moi, ça comprend la relation nécessaire entre toutes les actions du Christ qui justifie la pleine justification des élus. Et ça dépend particulièrement de son intercession. Je m'explique. La pleine justification, nous sommes justifiés non pas par les œuvres, mais par la foi. Nous croyons que Jésus est mort pour nous à la croix. Ça, c'est la justification. Mais la pleine justification, c'est que nous pouvons retomber. Alors, nous pouvons rechuter. Nous pouvons douter. Nous pouvons, un instant T, alors c'est ce qu'on appelle le miracle de la conversion, hein, un peu comme Paul qui est tombé du cheval. Hein, bon, plus fort, c'est difficile, mais ça arrive. Je sais que Madame Mamadou Karambéry nous a expliqué sa conversion, et voilà, c'est absolument incroyable. Il a dit d'ailleurs, je peux reprendre ses propos, il a dit que beaucoup de gens demandent la gloire de Dieu, manifestation de la gloire de Dieu. Alors bon, c'est du feu, c'est du machin, c'est la musique, la gloire. Non, il a dit, attention, quand la gloire vient, vous demandez à ce que ça s'arrête. Lui, il a dit, quand la gloire de Dieu est apparue, avec un de ses collègues, je ne sais pas qui, il a hurlé en disant, arrête, 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 parce que quand la gloire vient, il a dit, votre chair se dissocie des os. Ça fait tellement mal. Vous savez, c'est mal hein, quand vous tombez. Mais là, quand votre chair est arrachée de vos os, imaginez, ça c'est la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est une puissance atomique. C'est une puissance qui justement va nous donner cette capacité d'avoir un corps comme Jésus. C'est un corps qui n'est plus limité par les choses physiques. Et ce corps atomique vient d'une puissance atomique, d'une puissance d'atome, justement. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Donc, arrêtons de parler de la gloire, ou faisons des conférences sur la gloire, etc., parce que c'est juste des décibels qui augmentent la louange. Non, ça, c'est une vue de l'esprit, c'est pas la réalité. Mamadou a dit, quand il est arrivé, il rampait en arrière pour sortir de là où ils étaient, et il hurlait en disant « arrête, 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 arrête » jusqu'à ce que Dieu s'en aille pour être libéré de cette présence puissante de Dieu. Est-ce que il vous a raconté ça? Donc, je ne raconte pas de bêtises. Avec son interprète. Ouais. La gloire de Dieu, c'est autre chose que ce qu'on a dit. C'est une réalité dans laquelle on va entrer, mais pas avec notre corps. Notre corps, il serait désintégré. Donc il nous faut un nouveau corps pour être dans la gloire de Dieu. J'en étais à la sanctification. La sanctification, c'est la marche avec le Seigneur en tant que chrétien. C'est pas parce que je suis devenu chrétien que maintenant ça s'arrête. C'est ce qu'on appelle le discipulat, c'est ce qu'on appelle la marche constante avec le Seigneur. Mais dans ce cadre-là, on a besoin de l'intercession de Jésus pour nous. On a besoin qu'il intercède. Qu'il dise, ah oui, mais attends, tu vois Rémi là, regarde ce qu'il est en train de faire là, et puis il intercède auprès du Père, et il peut t'envoyer un ange. Il a tout un tas de moyens, d'arsenaux, il peut t'envoyer. Le problème c'est qu'il peut t'envoyer un âne. Et tu vas dire, mais non, c'est pas Dieu. Attention. Vous voyez, il faut faire attention à notre interprétation des choses. Justement, Dieu reste dans l'humilité, il nous parle comme il veut. C'est lui qui décide comment nous parler. C'est pas à nous de dire, ah ben, tu nous parles comme ça, moi je prends pas, c'est pas toi. Faites très attention. Très attention de ne pas être au-dessus de Dieu. Dieu utilise des moyens, c'est à nous de les accepter, de la manière dont il va nous parler, par quelle personne il va nous parler. Il peut nous parler par des inconvertis, par des gens qui ne sont pas du tout croyants. Il peut les utiliser. Il peut utiliser les faux prophètes. Dans l'Ancien Testament, on voit souvent qu'il utilise des faux prophètes. Parce qu'ils sont tous soumis à la Seigneurie de Christ. Les démons sont soumis à la Seigneurie de Christ. Quand il vient, il parle et ils s'en vont. Le deuxième ciel, il est soumis à la Seigneurie de Christ. Pas au nôtre, mais à Christ, oui. Tout est soumis à Christ parce qu'il a remporté la victoire, on le chante. Dernière chose, dans cet ordre sacerdotal, il y a la compassion. Il y a la compassion parce que l'Épître aux Hébreux nous dit que Christ est un souverain sacrificateur compatissant parce qu'il a été tenté lui-même en toutes choses sans commettre le péché. Jésus comprend tes souffrances, Jésus comprend tes difficultés, Jésus comprend tout ce que tu as vécu. Hein. Et justement, le ministère de la maison d'Élie, qu'on a fait venir ici dans l'église, va aider à prendre la liberté dans ces domaines où on n'a pas eu de chance, quelque part. Parce que, vous voyez, on a parlé, Michel a parlé de la maman qui, voilà, chez cette dame était absente et qui l'a fait beaucoup souffrir au point qu'elle donnerait toutes ses médailles pour avoir l'amour des parents. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a souffert dans le passé, mais qui continuent à nous faire souffrir. Donc ça, la Maison d'Élie va nous aider à en être libérés. Mais Jésus est compatissant. Il nous connaît. Il nous aide. Et nous avons souligné le sacrifice de sa vie, mais dans sa crucifixion, imaginez qu'il a souffert bien plus que vous, dans tout ce que vous pourrez souffrir le plus. Et c'est pour ça que vous nous voyez, vous nous renvoyez comme Michel ou moi, en disant parfois, vous voulez vous sauver d'une situation qu'on peut comprendre, on dit non, tiens bon, parfois il y a des domaines où il faut faire autre chose, mais la plupart du temps il faut tenir bon, et c'est là qu'on apprend. La croix a été l'acte final de son obéissance, mais Jésus a obéi toute sa vie au Père. Enfin, et je terminerai là-dessus, ce sacerdoce, souverain sacrificateur, est de l'ordre de Melchisédek. Il y a plusieurs ordres. Hein. Aujourd'hui, on parle du nouvel ordre mondial. Bon, la façon dont les choses sont ordonnées. Il y a Melchisédek ici. Donc, c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur, Melchisédek, qui a rencontré Abraham. Il faut toujours un sacrificateur, un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc Abraham, le père des croyants, il a rencontré Melchisédek. Ensuite, après, Israël, donc là c'est Moïse, qui a créé la constitution d'Israël, il a dû établir Aaron, un souverain sacrificateur de la ligne des Lévites, Aaron. Et Jésus, quand il est venu, lui, il est revenu à l'ordre de Melchisédek. Il n'est pas de la lignée, de l'ordre aaronique, donc là c'est Christ. Il est de l'ordre de Melchisédek. Et ça c'est absolument capital. Parce que Melchisédek, c'est une sacrificature universelle, intemporelle, qui existe de tout temps, qui est nécessaire pour pouvoir rencontrer Dieu, sinon on ne peut pas, il faut un intermédiaire, un médiateur. Et c'est le père de la foi qui ensuite maintenant va être réhabilité pour toutes les nations. Voyez-vous, ici c'était pour un peuple, Israël, hein, les fils de Jacob, hein. Ni plus ni moins, c'est les 12 tribus qui ont été choisies. Mais ici, c'est toutes les nations, y compris Israël. Israël est dedans. Hein. Il ne faut pas idolâtrer Israël en tant que peuple particulier. C'est qu'il a été précurseur, l'ombre des choses, de la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est tous les humains, y compris Israël, sont sous cet ordre de Melchisédek. Il n'y a plus l'ordre à Aaron. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des radicaux israélites qui sont en train de préparer le troisième temple et tout, etc. Ils veulent faire une OPA, etc. Voilà, ils vont complètement se planter, hein, parce qu'ils ne sont pas du tout dans la compréhension du Nouveau Testament et de ce que Dieu fait. Mais bon, laissons ça de côté et revenons à Melchisédek. Et j'aimerais là une petite image, ça m'évitera de faire des projections un petit peu compliquées. Voyez-vous, à l'époque d'Aaron, oublions un peu Melchisédek, revenons à Aaron, le souverain sacrificateur avait un costume assez particulier. Hein. Il était décrit de manière très précise, avec des clochettes en bas, etc. Et tout a une signification. Nous, on a été au bénéfice de cette maquette qui nous a été présentée, qui explique que tous les détails ont une importance. Mais je reste juste sur un détail. Ici, sur la poitrine, il y avait les 12 tribus d'Israël qui étaient représentées par des pierres. Et d'ailleurs, ici, j'ai pris ces pierres pour les pièces, hein, rubis, émeraudes, etc. Le souverain sacrificateur ne rentrait pas dans le lieu très saint pour lui-même. Bien sûr, pour lui-même aussi, parce qu'il a péché. Donc il dit pour lui-même, mais ce n'est pas le cas de Jésus, Jésus n'a pas péché. Mais le souverain sacrificateur était rentré avec sur la poitrine, y compris la tribu de Lévi, les 12 tribus. Voyez-vous, ça c'est du symbole. Le symbolisme, c'est plus que des mots. Le symbolisme, c'est une réalité. Il rentrait réellement en portant sur lui l'identité des 12 tribus. C'est pour ça qu'il pouvait être utilisé par Dieu pour qu'Israël puisse vivre d'une année sur l'autre. Sachant qu'ils sont tombés aussi, l'apostasie, etc. Ça ne l'a pas empêché. Mais en tout cas, ils étaient gardés par Dieu, la plupart du temps, à cause et grâce au souverain sacrificateur qui rentrait une fois par an dans le lieu très saint. Okay ? Et là, je vais vous montrer une autre image, qui est une image, bien sûr, qui est représentative de Jésus, qui est selon l'ordre de Melchisédek. Sa couronne, c'est une couronne d'épines. Il a souffert pour nous, pour les péchés. Et cette couronne d'épines, avec les mains et les pieds percés, il peut montrer au Père, rien que comme il l'a fait à Thomas, il peut montrer que son œuvre est éternelle. Et nous le verrons avec les mains et les pieds percés dans l'éternité. C'est l'agneau immolé. Dans l'Apocalypse, on le verra. Et ça, c'est la représentation que nous avons besoin de ce médiateur, y compris dans l'éternité. Sinon, on ne peut pas entrer parce que voilà, le péché est là et Jésus l'a apporté. Et sur sa poitrine, il n'y a pas seulement les 12 tribus, mais toutes les nations. Le 12 est le chiffre de la totalité. C'est symbolique. Ce n'est pas que les 12 tribus. Jésus est venu en tant que juif. Les juifs n'en ont pas voulu. Et en 70, ils ont été dispersés et c'est venu aux chrétiens. À Antioche, première fois en l'an 38, les chrétiens ont été appelés chrétiens sans les juifs. Les juifs doivent rentrer dans le plan de Dieu, du salut pour toute l'humanité. Et la croix ici, ben, c'est l'œuvre qu'il a accompli, qui rappelle les sacrifices, son sacrifice à la croix. Et c'est dans ce cadre-là qu'il intercède pour nous. Il est l'intercesseur. Il intercède pour nous selon l'ordre de Melchisédek et pas selon l'ordre d'Aaron. Parce que Aaron et ses descendants, ils mouraient. Tandis que lui, il ne meurt jamais. Il est vivant. Amen. Le sacrificateur royal est mentionné dans la Genèse, chapitre 14, verset 18, dans le psaume 110, verset 4. L'ordre de Melchisédek est immuable. L'ordre d'Aaron est appelé à disparaître. L'ordre de Melchisédek a été repris par Christ. C'est un ordre immuable, éternel, contrairement à l'ordre d'Aaron. Et les effets de la mort et de l'intercession de Christ ont une valeur éternelle. C'est le Fils de l'homme. Et j'aimerais terminer en reprenant les paroles de tout à l'heure. Est-ce que nous comprenons la valeur de l'intercession que nous sommes appelés à faire? À l'exemple de Christ, nous sommes appelés à être des intercesseurs. Bien sûr pour nos proches, mais aussi pour les autres, y compris pour toutes les nations, y compris pour Israël, qui fait partie d'une nation. Et c'est pour ça que la vision de l'Église ici, que nous avons reçue quand nous sommes arrivés ici, c'est de faire une maison de prière pour toutes les nations. Et dans une maison de prière, on intercède, pas pour soi, bien sûr, il faut intercéder pour les siens, prier pour soi, etc., ce qu'on fait, mais pour les autres. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui l'Église d'Aubergenville est capable de soutenir cette maison de prière? Moi, je dis non. Je dis non. Désolé. Donc Dieu donne ça. Moi, j'ai suivi la vision. J'ai cru. Et là, elle va se terminer physiquement. Mais s'il n'y a personne qui vient intercéder... Alors, il y a d'autres frères et sœurs dans d'autres églises qui attendent ça. Donc, vous voyez, il y en a qui nous devancent. Mais est-ce que nous ne sommes pas jaloux de ce que Dieu a donné ici à l'Église? Ça, c'est un challenge, c'est un défi. Voilà. Et ça fait partie des critères pour rentrer comme membre. Si les membres voilà, n'ont pas cette conscience-là, je ne peux pas dire qu'on est capable hein, d'intercéder. Moi non plus, je suis comme vous. Hein. Voilà, des fois, c'est plus ou moins facile. Mais la motivation, le désir, ça doit se remarquer dans des fêtes quand même. Les chrétiens qui pendant un an ne le voient jamais, les chrétiens qui pendant 10 ans ne les voient jamais, bah, vous avez encore autant de 10 ans, bien sûr, ils peuvent se réveiller. Mais moi, je pose la question, en tant que pasteur, Est-ce que nous avons compris le ministère sacerdotal? Est-ce que nous voulons le comprendre? Il est composé de deux choses, le sacrifice et l'intercession. Le sacrifice, Jésus l'a fait, il la porte devant le Père, et l'intercession, c'est nous qui sommes appelés. Alors, bien sûr, on peut intercéder chez soi, hein, c'est très bien, mais l'intercession en Église, c'est quelque chose qui est dans la dimension communautaire d'une Église, qui est appelée et qui a une puissance bien plus grande qu'une intercession personnelle, parce que Dieu, il a choisi l'Église. Il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour ne prévaudront pas contre elle. Donc, c'est un appel à une, voilà, un regain de compréhension, parce que c'est de la compréhension que ça doit partir, pas du légal, je dois, non, vous ne devez pas intercéder. Ce que vous devez, c'est comprendre quelle est la motivation, quels sont les ressorts du vrai chrétien. Le ressort du vrai chrétien, c'est qu'il est un petit Christ. Christ, il est souverain, sacrificateur, il intercède pour nous, et nous, nous sommes supposés intercéder pour les autres. Et l'ennemi ne veut pas de ça, parce qu'il connaît la puissance de l'intercession. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce ministère sacerdotal, que, Seigneur, tu occupes autant que les autres ministères, les trois autres offices. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que non seulement tu as porté les péchés à la croix, mais de ce que continuellement tu intercèdes pour chacun de nous. Merci pour ce ministère. Merci de ce que nous pouvons venir dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, grâce à cette intercession, parce que Dieu nous voit au travers de Jésus, au travers de ce qu'il a fait pour nous. Et nous te prions pour que cette Église ici puisse prendre conscience de l'importance de l'intercession et que les choses puissent bouger à partir de la rentrée. Seigneur, je te remercie parce que cette Église a été établie sur ta parole. Mais Seigneur, l'ennemi veut tout pour la détruire. Et nous te prions pour que, Seigneur, il y a un sursaut qui vienne pour que chacun comprenne que l'Église n'est pas une association humaine, mais c'est une association de chrétiens engagés, qui comprennent qui est Christ et qui est leur destinée, qui est leur identité. Seigneur, merci de ce que c'est toi qui agis et c'est ton esprit qui agit. Et je t'en remercie au nom de Jésus. Amen.